Aldo Moro, un catholique en politique. Le sujet de la conférence donnée début juillet par l'historien Philippe Faureau dans le cadre de la 18e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je suis persuadé que certains d'entre vous se souviennent de l'affaire Aldo Moro, son enlèvement en 1978 et la fin tragique de cet enlèvement. Mais c'est vrai que nous allons un peu remonter dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, des années du fascisme, des années de guerre, de l'après-guerre, de la reconstruction et de cette Italie des années 60-70 qui est à la fois la période, je dirais, du miracle économique italien et puis des années de plomb. C'est-à-dire, nous y reviendrons, du contexte terrible des attentats qui ont ensanglanté l'Italie avec des centaines de victimes. Alors, est-ce qu'il rentre dans la problématique de la rencontre sur la paix ? Or, nous allons essayer de le voir au pouvoir et essayer de le voir dans la pratique du pouvoir. Et je crois qu'il est aussi bien sur la scène internationale que face aux difficultés de l'Italie de son temps, un homme qui a cherché le dialogue, y compris avec l'adversaire politique, y compris avec des personnes qui, et des forces politiques qui ambitionnaient de mettre fin au pouvoir de la démocratie chrétienne, puisqu'il est démocrate chrétien. Et je crois qu'il l'a peut-être payé, d'ailleurs. Il l'a peut-être payé au prix fort, mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure, parce que vous n'échapperez pas quand même à l'affaire Aldo Moro. Vous verrez, c'est assez poignant. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous présenter qui est Aldo Moro, son milieu, à la fois géographique et familial, sa formation. Alors, c'est un homme qui est un méridional. Il est de la province de Lecce. Pour ceux qui connaissent l'Italie et les Pouilles, vous ne pouvez pas être plus au sud, parce qu'il est né à Maglie. Maglie, c'est une commune d'environ aujourd'hui 15 000 habitants, au sud de Lecce. Donc, c'est vraiment le méridional. Vous verrez qu'il n'a pas les caractéristiques caricaturales que l'on donne à l'italien méridional. J'y reviendrai un peu par la suite. Son milieu familial. Son père est un serviteur de l'État. Il est inspecteur de l'éducation primaire pour les Pouilles. Sur le plan religieux, je le qualifierais d'agnostique. Voilà. Il est baptisé, il a fait sa communion. Enfin, ça ne vous caractérise pas quand même un catholique en Italie, parce que tout le monde, sauf exception. Mais il se méfie de l'institution ecclésiastique. Il faut dire que une bonne partie de l'histoire de l'Italie contemporaine s'est bâtie sur un duo adversaire, où je t'aime moi non plus, entre l'État royal et l'Église. Et finalement, le père, en tant que serviteur de la monarchie des Savoies, en tant que serviteur de l'État royal, se méfie de l'institution ecclésiastique. Mais il laisse faire celle qui fut sa femme, la femme de sa vie, Maria Stinchi, fille d'Astinchi, pardon, qui, alors elle est une catholique que l'on peut qualifier de militante. Non seulement elle est pieuse, elle a une vraie foi, mais elle milite. Et alors, ce qui a été passionnant durant les recherches que j'ai pu faire, c'est que, par chance, on a édité son journal intime, un journal qu'elle tenait et où elle donnait son avis sur les événements, sur, je dirais, sa foi, etc. Et, en fait, elle milite sur deux aspects important pour l'Italie du début du XXe siècle. Elle est pour le vote des femmes, d'abord. Elle estime que les Italiennes doivent voter. Et donc, en Grande-Bretagne, on l'aurait appelée une suffragette. Elle milite pour le vote des femmes. Alors, les Italiennes n'auront le droit de vote que par un décret du mois de janvier 1945. À peu de choses près, les Françaises auront exactement la même chose. De ce point de vue-là, il y a des comparaisons possibles entre les deux pays. Et puis elle a un deuxième domaine où elle souhaite militer, c'est ce qu'on pourrait appeler la cause méridionale. Vous le savez, l'Italie, malgré l'unité politique, est un pays qui est clairement divisé nord-sud. Le Mezzogiorno, le Midi, et puis les provinces septentrionales du Nord. Et ce qu'elle dit, c'est que, et elle milite en ce sens, c'est que les méridionaux ne sont pas plus retardés que les autres, parce qu'ils sont méridionaux, plus feignants, plus le soleil qui les écraserait, enfin, que c'est ces images stéréotypées. Elle dit non, le méridional, il faut lui donner sa chance. Et elle défend l'idée qu'il faut développer l'alphabétisation, par exemple, des méridionaux. Et donc, c'est quelqu'un qui est attentif à ces deux causes. Elle a transmis la foi à ses 4 enfants. Une fille, 3 garçons, dont Aldo Moro. Aldo Moro, le petit Aldo, qui est né en 1916. Donc, ça veut dire qu'il traverse le fascisme dans sa jeunesse, parce qu'il a 6 ans lors de la marche sur Rome, qui amène Benito Mussolini au pouvoir. Il a quasiment 20 ans, il est dans sa 20e année, lorsqu'il a la victoire en Éthiopie, en 1936. Et il a presque 24 ans quand l'Italie rentre dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il a traversé le fascisme, comme des millions d'Italiens et d'Italiennes. Mais alors ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il s'engage tôt dans le milieu catholique. Quand, par exemple, la famille s'installe à Tarente, où le père a été muté, il a 12-13 ans. Et il s'engage dans une paroisse consacrée à Saint-François d'Assise et il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui des maraudes pour distribuer des repas aux nécessiteux. Ensuite, quand il entre à l'université, c'est un juriste, il va faire des études de droit et il enseignera d'ailleurs lui-même le droit pénal en particulier. Il s'engage dans une organisation qui est la FUCI, la Fédération Universitaire Catholique Italienne. Et il a 18 ans. Or, ce n'est pas, je dirais, un choix innocent dans l'Italie fasciste. Parce que vous avez peu d'organismes qui échappent à l'État et aux partis fascistes. La FUCI en fait partie. Alors, ça n'en fait pas un antifasciste forcené. Je dirais qu'il n'a pas fait un militantisme antifasciste. Au demeurant, c'est extrêmement difficile d'être un antifasciste militant en Italie dans les années 30. L'antifascisme, il est militant à l'extérieur, en France, en Belgique, aux États-Unis, mais pas en Italie. Mais c'est quand même significatif, je dirais, d'une volonté de ne pas être totalement dans le moule que l'État fasciste prévoit. Et l'Église, de ce point de vue-là, avait réussi à garder une autonomie pour ses organisations de jeunesse. Entre 1929 et 1931, il y avait eu ce qu'on peut qualifier familièrement d'un bras de fer entre le gouvernement fasciste et l'Église, parce que Mussolini veut que toutes les organisations de jeunesse dépendent du parti, y compris les organisations de jeunesse catholiques. Et le pape Pie XI, qui avait signé les accords du Latran avec le gouvernement, défend la jeunesse catholique. Il ne veut pas de la mainmise du parti sur la jeunesse catholique. Et il publie d'ailleurs une encyclique en italien, Non abbiamo bisogno. Ce sont les premiers mots de l'encyclique, où il défend l'autonomie et où il reproche une certaine statolatrie du régime, c'est-à-dire un culte de l'État outrancier. Et finalement, il y a un compromis qui va se trouver. Mussolini accepte que le parti fasciste ne mette pas la main sur, en particulier, la FUCI, mais en contrepartie, il ne faut pas qu'il y ait de militantisme politique dans les organisations de la jeunesse catholique. C'est-à-dire que les jeunes peuvent se réunir dans une salle paroissiale pour discuter d'un extrait de l'évangile de Saint-Jean, mais il n'est pas question de parler d'un militantisme de l'ancien Parti populaire, qui était le premier parti démocrate chrétien en Italie en 1919. De même, ils n'ont pas le droit de faire du sport. Le sport est réservé aux organisations du parti. Bon. Et c'est donc le choix d'Aldo Moro, c'est de vivre dans la Fucci. Mais inversement, la Fucci, c'est une pépinière intellectuelle. D'abord parce que pendant plusieurs années, c'est un jeune prêtre, Giambattista Montini, qui en a été l'aumônier, c'est-à-dire Paul VI. C'est le futur Paul VI. Alors évidemment, personne ne le sait. Personne, lui-même, non, d'ailleurs, l'ignore. C'est le père Montini qui est l'aumônier de la Fucci. Et les aumôniers, d'ailleurs, ont toujours veillé justement à la fois à la neutralité, parce qu'ils savent qu'il y a l'épée de Damoclès du régime quand même au-dessus des têtes, mais à préserver vraiment une autonomie. Et puis, on réfléchit, on lit beaucoup. C'est un milieu étudiant où l'on lit beaucoup, où l'on échange, où on parle même de ce qui se fait un peu à l'extérieur. Par exemple, alors là, la pensée de Maritain. La pensée de Jacques Maritain, elle est connue en Italie, mais sous le manteau, ou la soutane, si vous préférez. Parce qu'il n'est pas traduit en italien, il est traduit en 1946. Qui le traduit ? Montini, qui parlait un français remarquable. Il aimait la France et la culture française, le pape Paul VI. Ce qu'on sait, c'est que le jeune Moro a lu la Somme théologique de Thomas d'Aquin. De toute manière, Moro a été un immense lecteur. Un immense lecteur. Et alors, il achetait des livres, et souvent en famille, il disait « Mais ça, quand je serai à la retraite et plus tranquille, j'ai plein de choses à lire ». Et puis, il a une responsabilité, c'est qu'en 1939, avec l'accord du tout nouveau pape Pie XII, il est nommé à la tête de la Fucci, la Fédération nationale, il en devient le président national. Quand il est mobilisé en 1942, il est remplacé par quelqu'un dont peut-être le nom vous dit quelque chose, Giulio Andreotti, qui sera un des grands responsables de la démocratie chrétienne italienne. C'est-à-dire, sans le savoir, la pépinière politique d'une bonne partie de la démocratie chrétienne d'après-guerre, qui va être aux affaires, est formée à la Fucci. C'est-à-dire qu'en fait, sans en avoir conscience, l'Église préserve un avenir pour les élites catholiques de son temps en Italie. Et Moro en est un des exemples. Cette Fucci a été aussi importante sur le plan personnel parce qu'il va y rencontrer celle qui restera jusqu'au bout la femme de sa vie, Eleonora, Noretta. Noretta, c'était le petit nom qu'il lui avait donné. Eleonora, ils se sont profondément aimés. Ils ont eu 4 enfants. Et c'est une femme qui c'était une forte femme. Enfin, vraiment, elle avait un fort tempérament. Et d'ailleurs, au moment de l'enlèvement et de l'affaire Moro, elle va essayer de remuer. Nous en parlerons, ciel et terre, pour essayer de trouver une solution. Vous connaissez la suite. Ces enfants qui sont nés de cet amour, Maria Fida en 1946, Anna Maria en 1949, Maria Agnese en 1954, et le petit dernier, Giovanni, en 1958. Et cet homme, cet intellectuel, il devient professeur de droit, il soutient une thèse, il devient maître assistant très jeune, à 22 ans, en 1938. Et alors là, moment un peu d'émotion aussi, parce que à l'université de Bari, où il enseignait jusqu'en 1963, donc la capitale des Pouilles, j'ai retrouvé dans les archives de l'université un papier signé de sa main où il devait affirmer que ses parents n'étaient pas juifs. Pourquoi ? Parce qu'à l'automne 1938, le régime prend des lois antisémites. Et donc, pour être enseignant à l'université, ou enseignant d'ailleurs tout court, vous deviez attester que vos parents n'étaient pas juifs. Et j'ai retrouvé cette... Bon, comme quoi ses parents n'étaient pas juifs. Bon. Il a dû aussi prêter serment au régime. Tous les professeurs, tous les instituteurs. institutrices de l'Italie des années 30 ont dû prêter serment au régime. Les instituteurs et institutrices en 1929, les professeurs du secondaire en 1930, les professeurs du supérieur en 1931. Si vous ne prêtez pas serment, vous perdiez votre poste. Vous n'étiez pas mis à mort, mais vous perdiez votre poste. Et pour entrer à l'université en 1938, comme des milliers d'enseignants, il a prêté serment au régime. En 1931, pour vous donner quand même une idée, quand on demande aux universitaires de prêter serment, il y a à peu près 1250 universitaires en Italie, c'est pas encore, vous savez, l'université de masse. 12 refusent. Donc il est mobilisé en 1942. Il ne connaît pas l'occupation allemande parce qu'il est stationné dans une base aérienne et dans le sud, et le sud est assez vite dans les mains des alliés quand il débarque en septembre 1943. Et il se lance en politique en 1946, dans la démocratie chrétienne. Il a 30 ans. Il est élu à la Constituante. En effet, le 2 juin 1946, les Italiens ont eu un référendum pour ou contre le maintien de la monarchie des Savoies ou la République. J'arrondis le chiffre, 54% des Italiens et des Italiennes, parce qu'elles votent, ont voté pour la République. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur ce référendum qui est capital. Il a été célébré il y a quelques jours, les 80 ans. Mais la monarchie a sans doute payé d'avoir, je dirais, fait un trop long chemin avec le fascisme. Et en plus, je pense qu'elle a payé aussi la guerre, l'occupation et ce que fut l'occupation allemande dans beaucoup de régions italiennes. Bon. Et en même temps que ce référendum, Moreau est élu, comme des centaines d'autres représentants, à la Constituante, parce qu'il, de toute manière, il y aurait eu une nouvelle constitution. Même si vous gardiez la monarchie, il y aurait eu une nouvelle institution, constitution, on aurait évacué, si j'ose dire, la constitution de 1861. Mais là, il faut faire une constitution pour le régime républicain qui vient d'être instauré. Et c'est là où vous allez commencer à voir, je dirais, la manière dont Moreau conçoit la vie publique. Il est juriste, il fait partie de la Constituante, mais surtout, il va faire partie d'une commission de 18 députés, un noyau, si vous voulez, qui va discuter des articles de la Constitution qui seront soumis, à une commission des 75, et enfin, séance plénière pour le vote. Or, en cette année 46 et 47, puisqu'il y a un an et demi de débat, et j'ai pu me plonger dans les archives des débats constitutionnels, c'est des hauts débats, des débats élevés, où on discute de choses fondamentales, les libertés publiques et individuelles, l'école, la place de l'Église. Or, par exemple, la question se pose, parmi les constituants, est-ce qu'il faut maintenir les accords du Latran entre l'État italien et l'Église, qui avait été signé en 1929? Les libéraux, les socialistes, veulent supprimer les accords du Latran. Or, ça va peut-être vous étonner, mais les communistes de Palmiro Togliatti et les démocrates chrétiens décident de maintenir les accords du Latran qui sont inclus dans l'article 7 de la Constitution. C'est-à-dire Pépone et Don Camillo sont d'accord ce jour-là. Et là, Moreau, il apprend à dialoguer. Il discute et il va beaucoup s'intéresser à l'école. Il va, par exemple, peser aussi beaucoup sur le fait, est-ce qu'il faut vraiment que on affiche un aspect antifasciste au texte constitutionnel? Selon lui, oui, parce qu'il faut véritablement que toutes les libertés individuelles et publiques soient affirmées dans le texte constitutionnel, ce qui était évidemment à l'encontre de la manière dont avait été géré le régime fasciste. Donc, je pense que cette expérience de la Constituante est très importante parce qu'il a appris à dialoguer avec l'autre. Bon, d'abord, il est de toute manière quelqu'un qui est, même dans sa jeunesse des années 30, Les témoins qu'on a disent que c'était un homme de paisible, de conciliation. Il n'était pas très porté, je dirais. Par exemple, ses camarades, ils s'intéressaient un peu aux filles quand même. Enfin bon, il y avait pas du tout. Il dit, j'en trouverai une un jour qui sera la bonne. Enfin bon, il ne voulait pas perdre un temps fou. Et bon, Dieu merci, il l'a trouvé. Mais c'est un homme de toute manière de dialogue. Mais là, ça se concrétise. C'est qu'il a dialogué avec des libéraux, des socialistes, des communistes, des hommes de l'uomo qualunque, c'est-à-dire des espèces de poujadistes, en fait, un peu italiens, si vous voulez. Ça a été, je crois, très, très formateur. Alors, sur sa carrière ministérielle, je fais vite. Vous avez là tout je dirais, le curriculum vitae d'Aldo Moro. Je voudrais insister sur quelques points, juste, parce que le temps m'est compté. Quand il est ministre de l'instruction publique, c'est lui qui prend l'initiative d'introduire dans les programmes l'instruction civique. Parce qu'il dit, la démocratie, ça s'apprend. Il y a une culture de la démocratie. C'est pas inné. Et il faut que le peuple italien, je dirais, connaisse cette démocratie, comment elle fonctionne, comment la faire vivre. Et donc, à la rentrée 57, il introduit l'éducation civique dans les programmes des établissements italiens. Bien. Ensuite, quand il est ministre de la Justice et des Grâces, selon la formule italienne, il s'intéresse beaucoup à la question de la réinsertion des prisonniers. Parce qu'il dit, bon, ils payent pour ce qu'ils ont fait à la société. Mais enfin, très peu vont rester éternellement en prison. Que faire après des prisonniers? Et donc, il défend l'idée vraiment qu'il y ait une réinsertion qui débute à la prison pour qu'ils puissent sortir le moins mal possible. Quand il est secrétaire général de la démocratie chrétienne, il est élu donc en 1959, son idée, c'est d'essayer d'élargir, pour stabiliser la vie publique italienne, la majorité parlementaire vers le Parti socialiste italien. Le Parti socialiste italien qui est largement en dessous, électoralement parlant, du Parti communiste. Le grand parti de la gauche italienne, c'est le Parti communiste. Bon. Et il va, je ne rentre surtout pas dans les détails, négocier, mais ça prend quasiment 2 ans, négocier avec les socialistes leur entrée au gouvernement. Et alors, chose qui ne peut pas se voir en France. Il va envoyer à tous les évêques un questionnaire pour avoir leur avis sur l'entrée des socialistes au gouvernement. Vous imaginez à la même époque Charles de Gaulle, qui est pourtant un catholique pratiquant, demander à l'épiscopat français son avis sur sa politique algérienne ou sur sa politique intérieure ou extérieure. Évidemment que non. En Italie, si. Alors ça, c'est passionnant parce que j'ai pu travailler sur les réponses des évêques. La plupart répondent. Alors, il y en a qui disent, oh, vous ne vous rendez pas compte, les socialistes, vous leur donnez ça, ils vont prendre ça. Après, les socialistes sont les communistes. Bon. D'autres disent, oh, on n'a pas tellement d'idées. Bon, très, très bien. Et d'autres, par contre, disent, on fait confiance. Si vous jugez que pour le bien de la vie publique italienne, il faut faire cette ouverture, faites-le. Bon, ça, c'est un document absolument extraordinaire. Vous avez ces réponses, parce que le poids politique de l'Église et des institutions ecclésiales en Italie est considérable. Bon. L'Église intervient dans le domaine électoral, il est indéniable. Aux élections de 1948, 3 jours avant le scrutin, Pie XII prend la parole à la radio. Et je résume la pensée du pape. Vous avez le choix pour ou contre le Christ. Ce qui vous laisse quand même, si vous voulez, un poids moral important. Et alors, vous aviez aussi des petites affichettes de la démocratie chrétienne. Alors là, ça nous renvoie à Pépone et Don Camillo. Vous aviez des petites affichettes où vous voyez un Italien en train de mettre son bulletin dans l'urne. Il est dans l'isoloir. Et il y a une légende. N'oublie jamais que Dieu te voit, pas Staline. Extraordinaire. extraordinaire. Et donc, vous avez vraiment une implication de l'Église dans la vie publique, en Italie, beaucoup plus que dans la France de la 4e République ou de la 5e République, bien entendu. Bien. Et puis, je voudrais vous le présenter aussi, il a été ministre des Affaires étrangères. Et il a réfléchi pendant plusieurs années comment établir, par exemple, de bonnes relations avec la Yougoslavie. La Yougoslavie avait été occupée en partie par les Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale, et Tito, le maréchal, était au pouvoir. Eh bien, il va négocier. Il va négocier. Pour les minorités italiennes qui vivaient encore en Slovénie, pour les minorités slaves qui vivaient côté italien. Et il va signer un traité avec Tito. Il y avait aussi le problème qui était un abcès entre l'Autriche et l'Italie à propos de la province de Bolzano où vous avez des germanophones. Et Alto Adige, exactement. Eh bien, c'était une pomme de discorde entre Vienne et Rome. Il va négocier avec le gouvernement autrichien pour apaiser et trouver un accord où les intérêts des minorités, en particulier germanophones, soient pris en compte. Le Moyen-Orient est influencé en particulier à la fin des années 60 par la guerre des Six Jours, qui crée le Grand Israël. Or, Moro mène une... Alors, il n'est pas le premier, parce qu'il y a une tradition de la diplomatie italienne vis-à-vis du monde arabe. Mais Moro, finalement, est sur la position suivante. L'État d'Israël n'est pas discutable. L'existence de l'État d'Israël n'est pas discutable. Mais il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et nous sommes toujours face à cette problématique. Hein. Il est persuadé qu'il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y a pas d'État palestinien. Parce que vous ne pouvez pas faire une paix sur la force brute. Et qu'il faut, alors évidemment, ça va demander des efforts, se parler et négocier. Et il fait partie des grands hommes politiques européens qui font, alors ça lui a été reproché, mais qui font que Arafat est venu à l'ONU parler devant l'Assemblée générale en 1974. À l'époque, d'ailleurs, le président Giscard d'Estaing était sur cette position. Il faut donner une tribune quand même aux Palestiniens. Et enfin, troisième point sur le Moyen-Orient, il dit il y a des résolutions de l'ONU. Si on ne les applique pas, ça mine toute possibilité d'une entente. Alors évidemment, quand aujourd'hui, nous, en ce 2 juillet 2026, on regarde le Proche-Orient, on se dit que la plaie est toujours béante. Mais il était sur une... Et d'où le fait qu'il va régulièrement faire une tournée dans les pays arabes, parce qu'il veut vraiment que l'Italie, par sa position géographique, géopolitique, ne cesse d'être un pont entre le monde arabe, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, et le monde occidental. Ensuite, il y a un autre aspect que je voudrais souligner. C'est quand il fait, avec Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste, ce qu'on appelle le compromis historique. Alors je voudrais vous... Voilà. Ça, c'est une photo où on les voit tous les deux se serrer la main, Berlinguer et Aldo Moro. Alors le compromis historique, ça touche, je dirais, la paix intérieure. Tout à l'heure, dans quelques instants, je vous donnerai le contexte de l'Italie des années 70. Il y a une ambiance de guerre civile. Je ne dis pas que c'est une guerre civile. Je dis qu'il peut y avoir une ambiance de guerre civile que vous comprendrez. Moro est à la tête du plus puissant parti italien, la démocratie chrétienne, qui, aux élections de 1976, a obtenu 38,8% des voix. Mais, face à elle, vous avez le plus puissant parti communiste d'Occident, le Parti communiste italien, dirigé depuis 1972 par Berlinguer, Enrico Berlinguer, qui fait 34,4% des voix aux élections de 76. Ça veut dire qu'aux législatives de 76, les trois quarts des Italiens votent Pepon ou Don Camillo. Eh oui, trois quarts des Italiens votent communistes ou démocrates chrétiens. Et l'idée, face aux attentats multiples et variés qui fracturent l'Italie, il faut discuter avec l'adversaire politique. Parce que vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas un parti populaire. Qu'est le parti communiste ? Et de l'autre côté, vous avez aussi Berlinguer, parce que Berlinguer, qui est un homme, je dirais, de qualité aussi, il a été impressionné par le coup d'État militaire au Chili en 1973. Et vu le contexte italien, où les groupes néofascistes, depuis quelques années, mènent des actions extrêmement sanglantes, il redoute que la tension aboutisse à une solution de force. Car effectivement, vous avez des groupes néofascistes qui ont en tête le modèle grec. Vous savez, les colonels grecs qui ont pris le pouvoir en 67, et ils rêvent un peu de ça. D'ailleurs, en 1973, vous aviez eu une comédie italienne avec Ugo Tognazzi, « Nous voulons les colonels ». Et c'est une comédie absolument délirante, mais qui montre bien qu'il y avait... Alors, je dirais qu'évidemment, maintenant, on a tendance à sous-évaluer les craintes de l'époque. Il n'y a pas de tradition putschiste dans l'armée italienne, etc. Bon. Mais enfin, qu'il y ait des violences qui peuvent mener au moins à l'état de siège, ça, oui. Et Berlinguer s'inquiète. Et la chance de ces deux hommes, c'est qu'ils arrivent à se parler. Alors, ce n'est pas facile, parce que les deux doivent convaincre leurs propres amis politiques. Vous croyez que pour un militant communiste, ça fait, mettons, 20 ans qu'on lui dit que la démocratie chrétienne, ce sont les curés, ce sont c'est le capitalisme américain, c'est l'État bourgeois, et que tout d'un coup, il faut s'entendre avec lui. Et que de l'autre côté, expliquer aux bons militants démocrates chrétiens, aux notables catholiques dans les provinces, qu'il faut parler aux rouges, à ceux qu'on a présentés pendant des années comme les suppôts du Kremlin. Mais c'est très difficile. Et je vous passe donc les années que Berlinguer et Moro ont mis pour convaincre progressivement leurs propres amis politiques. D'ailleurs, le compromis historique, l'idée en émerge à la fin 73. Ce n'est qu'en 1976 que les communistes, après négociation, acceptent de ne pas voter la défiance au gouvernement Andreotti. C'est, ils s'abstiennent. C'est la non-défiance. Et il faut attendre 78 pour qu'après des négociations, il y ait un programme que les communistes acceptent de voter au Parlement. Et ça doit se faire le 16 mars 1978 avec l'investiture d'un nouveau gouvernement Andreotti. Donc vous voyez, pour lui, la paix intérieure est aussi importante. C'est-à-dire que discuter avec l'autre, ce qui n'est jamais facile en politique, on le voit chez nous, encore aujourd'hui, le Parlement ne nous donne pas toujours le sens du compromis. Bon, ben, Moro estimait que face à la situation italienne que je voudrais vous décrire en quelques mots, il faut trouver un apaisement, le mot paix s'y trouve, en discutant avec l'autre grand parti politique qui est le Parti communiste. Ça ne lui vaut pas que des amis. Alors, effectivement, je voudrais rapidement passer le contexte en insistant que sur un aspect. Fin de la ruralité, vous avez une mutation sociale, c'est la fin des campagnes en Italie, sauf que ça se passe très vite. La France aussi a connu une fin des campagnes, sauf que ça se joue en un siècle. En Italie, tout se joue en une quinzaine d'années, vous avez un dépeuplement des campagnes dans les années 50-60. La massification de l'enseignement supérieur, c'est très bien l'enseignement supérieur massifié, on peut se dire il y a de plus en plus d'étudiants, c'est positif. Oui, sauf que vous pouvez créer des frustrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent des universités dans les années 70 sans emploi. Ou alors avec des emplois qui ne correspondent pas aux années passées à l'université. Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein ? Ça existe encore aujourd'hui. Vous faites des études, mais quel débouché ? Bien. Ensuite, des mouvements sociaux liés à la crise économique, je n'y passe pas beaucoup de temps. Les grandes valeurs qui ont bâti l'Italie d'après-guerre, l'Alliance américaine, le parlementarisme, car vous êtes avec une démocratie parlementaire. Mais le parlementarisme, c'est des discussions bourgeoises pour certains d'entre eux. L'allié américain. Oui, l'allié américain qui a été tellement utile dans la reconstruction, mais avec la guerre du Vietnam, et puis le poids des États-Unis qui crée, en particulier à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite d'ailleurs, un anti-américanisme profond. En 69, quand Nixon vient à Rome, vous êtes en pleine guerre du Vietnam, il y a des manifestations monstres pour protester contre la venue du chef de l'État américain. Le système capitaliste, n'en parlons pas. L'Église. Il y a un moment fort, c'est le référendum de 1974. Le référendum de 1974 sur le divorce. Le Parlement avait voté une loi sur le divorce en 1970. Mais la Constitution italienne vous permet d'organiser un référendum abrogatif si vous avez 500 000 signatures dans au moins 5 régions d'Italie. Donc, les militants anti-divorce se mobilisent. Référendum en mai 1974. 59% des Italiens votent pour le maintien de la loi sur le divorce. Ça veut dire que vous avez des catholiques qui ont voté pour la loi sur le divorce. Et alors, j'en ai parlé un jour avec une de mes étudiantes qui était une religieuse italienne, à Toulouse. Hein. Et je lui dis, est-ce que vous avez ces souvenirs en famille? Alors, elle, non, parce qu'elle était trop jeune. Mais est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont parlé de ce référendum sur le divorce? Elle me dit, oui, j'en ai parlé avec ma grand-mère. Ma grand-mère était une pieuse catholique, tous les dimanches, messe. Et, elle a voté pour la loi sur le divorce, parce qu'elle a dit, tu sais, il y a tellement de femmes malheureuses que finalement, le divorce, ça leur permet aussi de s'en sortir. Elle est allée au bureau de vote, elle a voté sans doute pour le maintien de la loi sur le divorce, et après, elle est allée à la messe. C'est ça aussi, le monde catholique et italien. C'est-à-dire le monde catholique qui bouge. Alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est le référendum sur l'avortement. L'avortement est voté en 78 par le Parlement italien, référendum en 81. 69% des Italiens votent pour la loi, par référendum. Mais il y a une deuxième question, ce référendum de 81. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer de 12 à 16 semaines pour mettre fin à l'existence du futur bébé? 68%, c'est-à-dire exactement le même taux, sont contre l'élargissement de la loi. Mais ils ont voté à 69% pour la loi sur l'avortement en 81. Donc il y a un phénomène aussi sans doute de sécularisation de la société italienne. Mais alors, vous avez la violence. Alors bon, ça c'est une photo devant la fac de Rome. Vous voyez, on ne fait pas court là. Mais vous avez les grands attentats de l'extrême droite italienne. Alors dans cette litanie... l'attentat de 69 à Milan, 17 morts, Piazza Fontana, l'attentat de Peteano, où vous avez 3 carabiniers tués par une voiture piégée, où le type qui a piégé la voiture téléphone au bureau des carabiniers en leur disant qu'elle gêne la circulation, ce qui était vrai, et de venir voir ce qui se passe. Il s'approche de la voiture, elle explose. Bon. L'attentat de Brescia, 8 morts en 74, l'attentat dans le train Rome-Munich, en 1974, toujours 12 morts avec une vialise piégée. Et alors, le nec plus ultra, vous vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous, c'est l'attentat de Bologne du 2 août 1980, 85 morts. De 6 mois à 85 ans. Bien. Donc, au total, sans compter Bologne, vous avez eu 241 morts en Italie. Donc, c'est là où je dis qu'il y a une ambiance de guerre civile. Et où Moro et Berlinguer se disent que pour la paix, essayer de maintenir cette démocratie italienne qui est en danger, il faut se parler. L'art du dialogue. Et là, nous sommes au 31 décembre 1979. Il n'y a pas encore les 85 morts de la gare de Bologne, et il y en a eu d'autres au début des années 1980. Alors, vous avez aussi, alors voici la photo de la piazza, de la banque d'agriculture, voilà la une du Il Resto del Carlino, qui est le journal de Bologne, sur le strage alla stazione, massacre à la gare. Bon. Et puis, vous avez aussi un mot, les groupes d'extrême gauche. Les groupes d'extrême gauche, dont un, à partir de 1975, fait le pas de porter les coups au cœur de l'État, et donc ils vont tuer des carabiniers, des gardiens de prison, des magistrats, des syndicalistes qui sont considérés comme des collaborateurs avec l'État bourgeois. Hein, nous sommes dans la phraséologie marxiste-léniniste. Et alors, le sommet du coup porté à l'État, c'est Moro. C'est l'enlèvement d'Aldo Moro. Alors, je voudrais terminer par ma troisième et dernière partie, l'affaire Moro. Les Italiens qui ont connu ce moment savent très bien ce qu'ils faisaient. J'ai posé la question à des amis, etc. Et moi, je rentrais à l'université, j'allais pour un cours, et tout d'un coup, la rumeur, Moro rapito. Moro a été enlevé. Une autre me disait, mais moi je faisais mon marché, puis tout d'un coup vous avez la radio, vous savez, chez le primeur, là, et puis flash spécial, Moro enlevé. Un autre était chez le coiffeur. Enfin bref. Et ça a été un vent de panique. Le réflexe des mamans italiennes, ça a été de chercher les petits à l'école. Alors que bon, l'enlèvement de Moro, mais il y a eu un vent de panique. Un vent de panique. Alors, un mot, pourquoi Moro ? Évidemment, c'est un symbole de l'État démocrate chrétien, mais aussi c'est le plus facile. Parce qu'ils avaient envisagé, les brigadistes, d'enlever Fanfani, le président du Sénat. Oui, mais alors le président du Sénat, les appartements de fonction au Sénat, c'est près de la place Navone. Pour ceux qui connaissent Rome, c'est pas pratique. Hein. Andreotti, président du Conseil. Oui, mais Andreotti, son appartement se trouvait au cœur de la Rome baroque. Or, dans ces petites rues de la Rome baroque, rue du Thor à Toulouse, c'est pas facile de faire un enlèvement parce qu'on peut vous bloquer assez rapidement. Oui, voyez. Moro, il habitait, alors je reprends mon exemple toulousain, il habite, mettons, l'Ardenne, voyez, le quartier de l'Ardenne, ou mettons même Castanet, allez, Castanet. Il va au Capitole, centre-ville, comme il allait à Montecitorio, le Parlement. Et là, ça vous laisse plus de possibilités. D'autant plus qu'il avait été pendant des mois repéré, quasiment toujours le même chemin. Toujours, toujours. Alors si vous êtes un jour en danger, ne passez jamais par le même chemin, parce qu'il faut brouiller les pistes, il ne faut pas savoir par où vous allez passer. Or lui, on l'avait repéré. Et donc il est enlevé. Alors voici la photo. On voit très bien comment ça s'est passé. Alors malheureusement, peut-être dans le dialogue tout à l'heure, je vous raconterai des détails, parce que c'est un polar. Mais on voit très bien la voiture du président, c'est la voiture noire. Or, il y a une petite Fiat, conduite par un brigadiste, qui a fait une queue de poisson devant un stop. La voiture du président l'a emboutie, et les gardes du corps, qui étaient à quelques mètres de la... qui ne s'attendaient pas à ça du tout, sont rentrés aussi dans la voiture du président Moro. Les brigadistes ont tué les 5 gardes du corps, 4 tout de suite, là ils sont morts, le 5e est mort à l'hôpital, et ils ont enlevé Moro. Ils l'ont enlevé et ils l'ont mis dans une... Alors voilà, ils l'ont mis dans un appartement qui avait été loué en 77, nous sommes le 16 mars 78. Officiellement, c'est un appartement loué par un jeune couple marié. En fait, 2 militants brigadistes. Et ils ont aménagé, derrière une bibliothèque, un cagibi d'un mètre sur trois, où ils ont mis Moro, insonorisé, etc., sans fenêtre, évidemment. Et il a vécu là 55 jours, un mètre sur trois. Alors, on connaît ces conditions de vie... Parce qu'ils ont témoigné, ils ont tous été arrêtés, je ne rentre pas dans les détails, ils ont été arrêtés. Ça a mis 15 ans au total pour les arrêter, mais enfin. Alors, on a le témoignage en particulier, je vais vous la retrouver. Voilà. De Anna Laura Braghetti, qui était la femme du couple, de locataire. Et elle a raconté, elle a écrit ses mémoires, qui ont été traduites en français sous le titre « Le prisonnier ». Et elle nous raconte le quotidien d'Aldo Moro dans sa prison du peuple, parce qu'évidemment, on est très grandiloquent. Hein. La prison du peuple, c'est donc le KGB d'un mètre sur trois. Alors, elle disait, il était très calme, il était calme. Il ne s'est jamais, vous savez, imaginez-vous enfermé là, rebellé, crié. Non. Il mangeait, mais sans beaucoup d'appétit. Il aimait les fruits, le fromage et le minestrone. Voilà. Il n'a pas été maltraité. Il n'a pas été maltraité parce qu'il y a eu l'autopsie du cadavre. Il n'y a aucune trace de produits stupéfiants, de coups, rien. D'ailleurs, il l'appelle le président. C'est-à-dire que ce sont des militants révolutionnaires, mais quand même, qui ont un sens d'une hiérarchie de l'État, il l'appelle président. Bon. Et alors, il lui demande s'il veut lire... Alors lui, oui, parce que les journées sont un peu longues quand même. Surtout que vous ne savez pas quand est-ce que c'est le jour et la nuit. Alors il s'efforce de lui dire, bon, président, il est 22 heures. Bon, et il le réveille de toute manière à 8 heures pour le petit déjeuner. Et alors, ils lui disent, mais on va vous fournir des livres, Marx, Engels, etc. Non, je les ai déjà lus, ce qui est très probable. Et alors, ils lui fournissaient des polars, des romans policiers, et ils lui fournissaient la Bible. Il avait demandé une Bible pour la lire très souvent. Il lui avait aussi fait une fleur enregistrée à la RAI, la messe du dimanche. Et alors, pour vous donner le niveau de... psychologique, enfin, le monde dans lequel vivaient les brigadistes, ils réécoutaient la messe plusieurs fois, sur des cassettes, vous savez, ça a disparu maintenant, ces cassettes que vous enregistriez, des chansons, etc. Ils réécoutaient souvent, en particulier, l'homélie du prêtre, parce qu'ils soupçonnaient que le prêtre fasse passer à Moro des codes secrets par son homélie. Vous parlez que, évidemment, c'était complètement du fantasme, mais ils écoutaient la messe plusieurs fois avant qu'il puisse l'écouter lui-même. Bon. Il a eu un procès. Il a eu un procès. Ce procès, évidemment, c'est un procès presque joué d'avance. Mais enfin, ils étaient embêtés parce qu'ils avaient espéré quand même négocier avec l'État. Or, je n'ai pas le temps parce que le temps m'est compté, mais il faut bien voir que, par exemple, le chef du gouvernement, Giulio Andreotti, dit qu'il est difficile de négocier ce qu'il demande, puisqu'il voudrait libérer 13 prisonniers à Turin et avoir des sommes d'argent. Est-ce qu'un État peut négocier comme ça, aussi clairement? C'est pas évident. Le ministre de Cossiga, que vous voyez là, c'est le ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, c'est fait pour être un peu ferme, si vous voulez. Sinon, c'est pas un ministre de l'Intérieur. C'est un ami de Moro. Il doit beaucoup à Aldo Moro, mais raison d'État. Le deuxième personnage sur la photographie, Zaccagnini, c'est le secrétaire général de la démocratie chrétienne depuis 2 ans. Alors lui, il va avoir un cancer, ce qui va se déclencher peu de temps après, parce que lui, il vit un déchirement intérieur. C'est un ami proche de Moro. Alors un jour, il veut négocier. Le lendemain, il dit non, on ne peut pas négocier. Le surlendemain, il dit que tout de même, on ne peut pas le laisser comme ça, où est-ce qu'il est, etc. Enfin, totalement ballotté. Et il dira lui-même, il va mourir d'un cancer, l'affaire Moro m'a tué. Vous avez, alors, Berlinguer, qui apprécie Moro, qui a du respect pour Moro, mais le Parti communiste est sur une ligne intransigeante. On ne négocie pas avec les Brigades Rouges. Surtout qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise, dis donc, les petits brigadistes, là, ils ne viennent pas du marxisme-léninisme, là, ils ne sont pas dans votre photo de famille. Hein. C'est une journaliste italienne qui a dit, le PC ne voulait pas que les brigadistes soient sur la même photo de famille. Et donc, intransigeance. Pertini, Sandro Pertini, socialiste, futur président de la République, un homme d'une grande probité, antifasciste, résistant pendant l'occupation nazie, etc., il a eu cette phrase que je vous livre, vous pourrez éventuellement en débattre tout à l'heure, « Je préfère aller aux obsèques d'Aldo Moro qu'aux obsèques de la République. » Parce qu'il revit le défi qu'avait été pour lui la résistance au nazisme et au fascisme. Il vit ça comme un nouveau fascisme. Alors évidemment, on peut aujourd'hui en discuter. Mais il est sur une position intransigeante. Les seuls qui acceptent de négocier, c'est Amin Toure Fanfani et le secrétaire général du Parti Socialiste, Bettino Craxi. Eux, ils disent, on peut essayer quand même de négocier. Il me reste Paris, Pierre, que je ne me rends pas compte. D'accord. Un mot, Paul VI. Paul VI, d'abord, quand on lui apprend l'enlèvement, il a un malaise cardiaque, il faut lui faire une piqûre. C'est un pape, pour ceux qui s'en souviennent, il va bientôt mourir. Il meurt le 6 août. Il est fatigué. Il a de l'artériosclérose, etc. Et puis Moro, ben, c'est le temps de la Fucci, hein, le temps de la jeunesse. Et ils s'apprécient beaucoup, tous les deux. Et Paul VI, et sans doute que Moro ne l'a pas su véritablement, a essayé de demander. Alors, il a ramassé de l'argent pour faire éventuellement un paiement. Le dimanche des rameaux, il a fait, au moment des rameaux de l'Angélus, il a demandé à genoux aux brigadistes de libérer cet homme bon qui était Aldo Moro. Mais il a ajouté sans condition. Or, ça a fait beaucoup gloser. Il y a une exégèse sur ce sans condition. Parce que certains disent, c'est le gouvernement italien qui a demandé au Saint-Père de faire une déclaration, libérez-le sans condition. Alors, je vais vous dire mon sentiment après avoir travaillé là-dessus, en lisant les souvenirs du père Pasquale Macchi, le secrétaire particulier du pape, qui a dit, écoutez, cette fameuse lettre où il y a les 100 conditions, je l'ai rédigée avec le Saint-Père à son bureau. Il s'est mis au travail à 23 heures, jusqu'à 2 heures du matin. Et il travaillait, il pesait, etc. À 2 heures du matin, il commençait à fatiguer un peu. Il a demandé à dormir et qu'on le réveille à 5 heures. Donc il s'est reposé 3 heures. Et le père Macchi l'a réveillé pour finir la lettre. Il a dit, je peux vous assurer, je suis le secrétaire particulier du pape. On n'a jamais reçu le coup de téléphone d'Andreotti ou d'un ministre. Ça veut dire que le pape a pris sur lui cette fameuse lettre. Bon. Moro n'a pas su tout ça. Il est même persuadé que Paul VI n'a pas fait grand-chose. Vous verrez tout à l'heure, je vous lirai sa dernière lettre. Alors, je passe sur les étrangetés. Peut-être que tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais les brigadistes, ils se retrouvent prisonniers de leurs prisonniers. 55 jours. Alors, il est condamné à mort. On lui annonce. Alors là, il paraît que pendant 48 heures, il ne parle pas. Il faut dire que si on vous dit brutalement dans un KGB de 1 mètre sur 3 que vous êtes condamné à mort, ça peut ébranler. D'autant plus que psychologiquement, vous avez affaire à un catholique, pieux, pratiquant. Or, dans son KGB, pas de communion, pas de confession, pas de dernier sacrement. Il va mourir seul. Et alors, le 9 mai, il va être exécuté. Exécuté. Je vous la fais vite parce que ce serait une scène de film assez extraordinaire. Si on en croit Anna Laura Braghetti, le 9 mai au matin, on l'habille comme il était le 16 mars, avec son manteau, cravate. Bon. On le descend à la quatrelle rouge, la fameuse quatrelle rouge qu'on a retrouvée et qui est là sur la photographie. Et on lui met un plaid. Parce qu'on ne veut pas quand même le tuer alors qu'il a les yeux ouverts, etc. Bon. Le grain de sable arrive. Il y a une jeune femme qui rentre dans le parking souterrain de l'immeuble. Les deux tueurs des brigadistes se cachent dans la pénombre. Vous savez, ces parkings de résidence un peu dans la pénombre. Et puis, Anna Laura Braghetti reste à côté de la 4L parce qu'il y a Aldo Moro. Et alors, elle dit à la jeune femme, vous êtes bien matinale ce matin. Et alors la jeune femme lui répond, mais oui, parce que j'enseigne dans un établissement scolaire à 50 km de Rome. Et vous savez, sortir de Rome le matin, ce n'est pas simple, n'est-ce pas, Sébastien? Et donc, je pars tôt pour être en cours à 8 heures. Ah, ben très bien. D'ailleurs, Anna Laura Braghetti dit dans ses souvenirs, elle aurait pu me retourner la remarque. Qu'est-ce que je faisais dans le parking de la résidence à 6 heures moins le quart le matin? Bon, bref. Et puis, une fois qu'elle est partie, il tire 9 balles dans la zone du cœur. Il y a une affaire qui peut-être vous interroge. Il n'a pas dit un mot, Aldo Moro, sous son plaid. Si le témoignage d'Anna Laura Baghetti est vrai, mais je n'ai pas de raison de le remettre en cause, il n'a pas hurlé. Il n'a pas dit « sono io, hein, sono Aldo Moro hein. ». Non, il ne dit rien. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu entraîner à la mort, éventuellement, aussi la jeune femme? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il était au bout de son destin? Je n'en sais rien. Je ne veux pas faire de la psychologie à dessous. Et alors, on va le mettre en plein centre de la ville, via Caetani, près de Piazza Venezia, hein, dans ce fameux, vous voyez, le cadavre, dans la cathédrale rouge. Et regardez la mine de Paul VI au Latran pour la messe des funérailles. Alors, il avait dit pas de funérailles nationales. Bon, il aura les funérailles dans son petit village où il avait une maison de famille, de vacances. Ils avaient acheté le caveau en janvier 78, sans savoir qu'il y serait en mai. Mais pour finir, je voudrais lui donner la parole, sa dernière lettre, à sa femme. C'est une très belle lettre que beaucoup de femmes, mais évidemment dans d'autres circonstances, voudraient recevoir. Manoretta, ma toute douce, après un moment d'optimisme des plus ténus, né peut-être d'une méprise de mon fait, j'ai mal compris ce qu'on me disait, nous sommes arrivés désormais, je crois, au moment de conclure. Nous sommes 4 jours avant son exécution. Il ne sait pas qu'il va mourir le 9 mai, mais il n'est pas idiot, il sait que c'est le bout du chemin. Alors que ce soit le 7, le 8, le 10, peu importe, il va mourir. Il ne me semble pas opportun de discuter de la chose en soi, non plus que du caractère incroyable d'une condamnation qui sanctionne ma douceur, ma modération. Sans doute, je me suis trompé, croyant bien faire, dans l'orientation que j'ai donnée à ma vie, mais désormais, on ne peut plus rien changer. Force est de reconnaître que c'est toi qui avais raison. Parce qu'elle lui disait, Aldo, tu as déjà beaucoup donné à la chose publique, à la République, etc. Retirons-nous. Bon. Et puis, je saute quelques lignes, et voilà ce qu'il écrit. Unis dans le souvenir de ma présence, vivez sous le même toit. Ça, c'est très italien, je trouve. Vivez sous le même toit, les enfants, la grand-mère, en fait, tout le monde. Il me semblera être parmi vous. Je vous en prie, vivez dans une seule et même demeure, si c'est possible, et adressez-vous à nos bons amis, aux chers amis que tu remercieras tant. Prodigue à tous les baisers, les caresses que je voudrais donner sur chaque visage, sur chaque paupière, sur chaque mèche. À chacun toute ma tendresse immense qui passe par tes mains. Sois forte, ma toute douce, au cœur de cette épreuve absurde et incompréhensible. Ce sont les voies du Seigneur. Transmets mon meilleur souvenir et toute mon affection à tous nos parents et nos amis. Pour toi, pour tous, un baiser plein de ferveur, gage d'un amour éternel. Je voudrais comprendre. Avec mes yeux de simple mortel, comment ferons-nous pour nous voir après? S'il y avait de la lumière, ce serait splendide. Mon amour, je serai toujours à tes côtés. Serre-moi contre toi. Baiser, caresse, affida, demi, Luca, plein plein à Luca. Luca, c'est son petit-fils de 2 ans. Anna, Mario, le petit à naître. Oui, parce qu'une de ses filles était enceinte. Agnese, Giovanni. Je leur suis si reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Tout est inutile quand on ne veut pas ouvrir la porte. Le pape a fait bien peu, peut-être en aura-t-il quelques scrupules. Vous pensez bien que je pense à Aldo Moro tous les jours. Merci.